Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Jean-François Colosimo. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes spécialiste du monde orthodoxe et directeur général des éditions du CERF. Vous avez publié en 2022 La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion en Europe aux éditions Albin Michel, un livre d'ailleurs qui sort en poche. Et puis, c'est un peu en avance, mais vous publiez fin mars Occident, ennemi mondial numéro 1, toujours chez Albin Michel. Ce sera autour du 29 mars, c'est ça ?
Absolument.
On va parler aussi d'une tribune que vous avez publiée dans le Figaro. On va rentrer dans le détail de tout ce que vous avez écrit. D'abord, un mot quand même sur ce qui est en train de se passer, puisqu'on va parler de l'Ukraine ensemble ce soir. Il y a une réunion qui est en cours en ce moment à l'Elysée. Une vingtaine de chefs d'État sont réunis. Naturellement, on parle des 2 ans de la guerre en Ukraine, avec cette injonction sur les Européens. Injonction à faire davantage. Est-ce que vous diriez, pour commencer cette interview, que la France a enfin choisi une ligne sur le sujet ?
Je crois que la France, non seulement a choisi une ligne, mais désormais occupe une position leader qui est beaucoup plus crédible, beaucoup plus solide, beaucoup plus offensive, par exemple, que la position allemande, n'est-ce pas ? Cette France, elle est en train de combler un vide, celui qui est en train de créer l'Amérique, où l'argent pour l'Ukraine est bloqué au Congrès, et où on ne sait pas si demain Donald Trump est élu, si l'Amérique ne retournera pas une forme d'isolation. Donc cette France, elle prend un peu le destin de l'Europe en main.
Pourquoi pas l'Europe ? Pourquoi pas l'Allemagne, pardon ? Vous dites qu'elle fait plus que l'Allemagne, évidemment. Pourquoi,
oui,
évidemment ?
Bon, d'abord, parce que peut-être, il faut le dire, il y a des tas de chiffres qui circulent, oui, comme quoi les Allemands donneraient plus que nous. Ça n'est pas vrai. On a donné beaucoup plus d'armes, mais eux, ils ont fait beaucoup plus de promesses. Alors, si on comptabilise le réel et la promesse, c'est un avantage de l'Allemagne. Si on comptabilise le réel, c'est un avantage de la France. Quantitativement et qualitativement, les canons César, ouais, c'est pas Caïssa, ont fait véritablement une différence pour les Ukrainiens sur le front. Donc, je pense qu'en plus, même si peut-être la relation a été un peu compliquée au départ, la relation, ouais, entre les deux présidents, Macron et Zelensky, est aujourd'hui une véritable relation directe. La France veut l'Europe de la défense. Il y a très peu de pays européens qui la veulent.
On parlait des promesses. Le chiffre que vient de donner à l'instant Volodymyr Zelensky, qui fait l'ouverture de cette réunion, il a dit qu'il avait reçu 30% seulement des obus d'artillerie qui avaient été promis par les Européens. C'est évidemment dans ce contexte-là que se produit cette réunion. Il a déclaré hier que l'Ukraine se trouve dans une situation, une position militaire extrêmement difficile, ce sont ses mots, puisque donc presque la moitié des aides promises ne sont pas arrivées. Est-ce que vous pensez que l'Europe ne fait pas assez ? L'Europe est-elle au pied du mur, là, maintenant ?
Écoutez, après les attentats du 11 septembre 2001, le monde entier s'est armé. L'Europe, elle, est restée à côté de ce mouvement. On ne rattrape pas en un an ou deux 20 ans d'inactivité. Ensuite, il y a un problème européen qui reste central. Vous avez un char italien, un char français, un char allemand. Ils se ressemblent, mais ils ne sont pas interopérables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lancer une offensive avec cette multitude de chars parce qu'ils ne sont pas en relation. Il y a des décisions à prendre. Si l'Europe, qui a découvert d'abord qu'elle était fragile face, par exemple,
fragile et menacée.
Fragile et menacée face à un Poutine. Mais elle était seule, peut-être aussi, si l'Amérique se tournait vers la Chine, le Pacifique, et abandonnait le vieux continent. Eh bien, cette Europe-là, aujourd'hui, elle est un peu à l'heure de son destin. Elle s'est rêvée quand même comme une bulle de paix. Ouais. Eh bien non, je veux dire, partout ailleurs, il y a la guerre. La guerre est mondialisée, aujourd'hui. Il n'y a pas une troisième guerre mondiale, il y a une guerre mondialisée. Une guerre en fragments, une guerre en miettes qui éclate partout. Et il y a des peuples, des gens, qui attendent de l'Europe un témoignage sur la liberté. Et donc, non seulement pour nous-mêmes, nos enfants, nos petits-enfants, mais pour le reste de l'humanité, il y a un devoir.
Et dit Zelensky, il dit aux Occidentaux, la victoire ou la défaite de l'Ukraine dépend de vous.
Oui.
C'est ça l'injonction à faire plus, c'est maintenant que ça se joue à vos yeux aussi.
Oui, parce que l'année 2024 va être très difficile pour les Ukrainiens. Vous savez que la proportion numérique, c'est un Ukrainien pour 3 Russes, mais aujourd'hui, la proportion des munitions, c'est un obus ukrainien pour 3 obus russes. Et tous ces obus tombent en Ukraine. Parce que pour l'instant, la guerre ne s'est pas portée en Russie.
Colissimo, j'ai l'impression que ça fait des mois que j'entends ça.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Ça fait des mois qu'on entend ce rapport de force défavorable militairement, en termes de moyens.
Si vous permettez, c'est quand même aggravé ces derniers temps en raison du fait que nos industries d'armement, ouais, n'arrivent pas à suivre le rythme qui serait nécessaire pour véritablement soutenir.
Alors, j'ai voulu vous inviter parce que vous avez signé une tribune dans le Figaro, j'allais dire dans lequel vous y allez vraiment. puisque vous dites « Il n'est d'autre levier pour rechercher une paix équitable que de ne plus interdire à Kiev d'intervenir sur le territoire de Moscou. Oui. » Avec des armes françaises, avec des armes allemandes. Est-ce que là, on ne rentrerait pas dans autre chose ?
Non, alors je modère. Je parle des forces libres russes que nous pouvons armer, d'ailleurs, je ne sais pas, avec des kalachnikovs serbes et des grenades libanaises, s'il faut maintenir un certain niveau de convenance. D'accord. Évidemment, ces forces libres russes vont être appuyées par les Ukrainiens, avec qui elles travaillent. Mais le problème, c'est que la guerre, elle est irréelle pour les Russes. Ils sont matraqués par la propagande. Mais regardez, quand Prigogine monte sur Moscou, le chef de Wagner, n'est-ce pas ? Eh bien, Poutine et Medvedev s'envolent de Moscou. Ce régime est faible. Comme le disait Navalny, un régime qui tue ses opposants est faible. Lorsqu'il y a des attaques sur Belgorod, c'est de l'autre côté de la frontière. N'est-ce pas ? On évacue les populations, on se barricade, on ne sait plus quoi faire, le gouverneur est affolé. En fait, nous surestimons la puissance de Poutine. Deuxièmement, si nous intervenons un peu plus, est-ce qu'il va nous attaquer nucléairement ? Jamais de la vie. Et ça, je vous le certifie, parce qu'il a un cerveau reptilien de la guerre froide. Si nous l'attaquons véritablement, oui. Mais vous arrivez, chaque fois qu'on a monté d'un cran notre aide, Medvedev est sorti à aboyer. La prochaine fois, c'est la bombe. Vous l'avez vu, la bombe ?
Ça veut dire qu'il faut livrer des avions, par exemple ? Commençons par là.
Le problème de la maîtrise de l'air, c'est la clé. Bien sûr, et de toute façon, ça irait avec les autres livraisons d'armes. Pour l'instant, c'est plus de Leveto et plutôt américain.
Vous êtes sur la ligne de Jens Stoltenberg, qui est le secrétaire général de l'OTAN, qui dit « L'Ukraine a le droit de se défendre, y compris en frappant des cibles militaires légitimes, des cibles militaires russes situées à l'extérieur de l'Ukraine. » C'est l'étape d'après, à vos yeux ?
Je n'en sais rien.
Jusqu'à présent, on est dans l'idée de dire c'est un soutien logistique, il n'y a pas de co-belligérance, c'est un mot du début des débats. Vous dites, en fait, on ne pourra pas s'en tenir à cette situation telle qu'elle est aujourd'hui.
Si Poutine, qui va être réélu, remobilise, lance une grande offensive pour gagner les territoires qui lui seraient nécessaires en cas de tractation, territoires qu'il pourrait abandonner pour garder le Donbass, la mer Noire, la Crimée, n'est-ce pas ? Eh bien, ça sera notre faute. Parce que les Ukrainiens sont véritablement exténués. Ils ont donné beaucoup de sang, ils ont donné beaucoup de vie. Et en même temps, je veux dire, ils se battent pour leur liberté, mais aussi pour la nôtre.
Emmanuel Macron qui vient d'affirmer à l'instant qu'un sursaut des alliés pour soutenir l'Ukraine est nécessaire. C'est en train de se dérouler en ce moment à l'Elysée. Il a dit aussi, le président de la République, il était au salon de l'agriculture, c'était un peu tendu comme vous le savez, mais il a été interrogé sur le sujet et il a dit la Russie a décidé de nous attaquer nous. C'est-à-dire si on ne fait pas cette montée en tension, ce bloc européen face à la Russie de Vladimir Poutine, vous considérez qu'il pourrait y avoir d'autres étapes que l'Europe pourrait être prise pour
regardez, si vous permettez. Quand vous regardez autour de vous dans le monde, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez des armées ou des milices, des empires ou des nations qui désormais pratiquent ouvertement l'inhumanité comme une politique normale. On arrive, on massacre les vieux, on déporte les enfants, on pogromise. Bon, c'est devenu quelque chose d'accepté. C'est contre ça qu'il faut se battre. Le visage de ça, pour nous, c'est Poutine. Mais il n'est pas le seul. Vous croyez que Xi Jinping... Vous pensez que Narendra Modi l'année, évidemment Ali Khamenei, Erdogan, regardez ce qu'Erdogan a fait, il avait transformé le Haut-Karabakh en un camp de concentration.
Qu'est-ce qu'on fait, Jean-François Colosimo ? On s'indigne ? Prenons l'exemple de la Turquie. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la Turquie, qui est un pays membre de l'OTAN, qui de temps en temps a joué avec les vies humaines en disant sur la question migratoire ?
Vous n'avez pas, qui nous a racketté et nous avons accepté un racket sur les migrants. Oui, alors je pense que peut-être, je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des princes, mais vous voyez, la France, ça c'est public, est en train de dessiner un accord de coopération militaire avec l'Arménie. Nous sommes en pointe sur l'Ukraine, semble-t-il, puisque la réunion se tient à Paris. Donc, je pense que peut-être en raison de notre longue histoire et du fait que nous, peut-être, n'avons même jamais été totalement parfaits, nous savons qu'on risque toujours l'inhumanité, qu'il faut la combattre.
Et vous dites, l'Europe doit accepter, sans plus attendre, une vaste politique d'accueil intermittent, qui affaiblisse la contrée cauchemardesse de Poutine en la vidant de ses meilleurs talents, préparera ses nouveaux dissidents à reprendre le pouvoir. C'est, en gros, il faut dire à la jeunesse révoltée, peut-être silencieuse, russe, venez, on vous accueille pour mener le combat de l'extérieur.
Il y en a déjà 1 200 000 qui sont partis. Ils sont réfugiés au Kazakhstan, en Turquie, dans les pays limitrophes, là où ils pouvaient aller, là où on les acceptait, on les accepte mal. Nous, on a plutôt fermé nos portes, Mais rendez-vous compte, si on disait à tous les scientifiques, ouais, artistes, vidéastes, qui
soyez
vous voulez,
les bienvenus.
Vous êtes les bienvenus pour un temps, on va vous aider à vous organiser, parce que nous sommes d'accord avec vous, il faut abattre Poutine. On ne sauvera pas l'Ukraine tant qu'on n'aura pas abattu Poutine.
Personne ne le dit ça en France, Jean-François Colosimo. Écoute. À commencer par le président de la République. Alors là, le président américain le traite de salopard.
Ouais.
Bon, je ne sais pas si ça peut avancer le débat, mais c'est ça le sujet. Il faudrait assumer ce genre de propos.
Parce qu'on a peur que c'est toujours la même chose, ouais, le chantage. Poutine a 6600 ogives nucléaires.
C'est ça.
Il tient ce plus grand pays du monde en superficie. On ne veut pas ouvrir la boîte de Pandore. Pendant ce temps, Navalny meurt, les Ukrainiens meurent. C'est ça qui se passe. Jusqu'où ?
Merci beaucoup Jean-François Colosimo d'avoir été mon invité. On va revenir sur ce week-end agité. On en a parlé très rapidement au Salon de l'Agriculture, la visite houleuse du président de la République. Nous allons revenir sur les leçons de ces quelques heures de chaos. À tout de suite.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.